Mes chers amis, en ce début de la sixième cassette, toujours dans la troisième interpellation, sous le slogan du petit catéchisme au grand rachitisme, passons maintenant à la deuxième force positive. On pourrait l'intituler une pastorale du pastorat. On l'imagine aisément, la grande confusion qui a régné et règne encore, surtout depuis Vatican II, concernant l'identité, la place, le rôle et les tâches du prêtre d'aujourd'hui, dans une Église qui se voulait et se croyait vraiment renouvelée à fond, a joliment non seulement brouillé les cartes, mais tous les joueurs, en leur esprit et leur cœur. Même les prêtres qui ont traversé ce temps couvert, aux nuages successifs de plus en plus épais, pourtant avec succès spirituellement parlant, et croyez-moi, ces prêtres sont très nombreux dans tous les pays, ces prêtres qui ont réussi, malgré tout cela ou à même tout cela, à s'épanouir, à se laisser combler par le Seigneur à la grande joie de leurs ouailles, tous ces prêtres demeurent encore, souvent isolés les uns des autres, parfois inquiets, plus ou moins bien accueillis par leurs autres confrères, et ne se sentent pas encore en toute confiance et prêts à passer courageusement au témoignage de leur vécu. Et c'est cela qui est sous-jacent à cette idée d'une pastorale du pastorat, ou encore à ce qu'on pourrait nommer une école du pastorat. Pas une école de pastorale, mais de pastorat. En somme, venir offrir une aide officielle et déclarée dans les diocèses à tous les prêtres qui veulent en finir avec ce brouillard d'hypothèses et de thèses souvent farfelues ou mal fondées, d'illusions ou de mirages entretenus, de définitions ou descriptions contrefaites ou imparfaites du prêtre ou du sacerdoce, et qui veulent s'ajuster pour un nouveau départ en termes clairs, justes, simples et priés. Quand je parle d'un second mode possible de vie et de fonctionnement en Église, et j'y ai fait maintes fois allusion depuis le début des interpellations, c'est-à-dire un style tout autre que celui qui prévaut de façon générale à l'heure actuelle, lequel est dépassé et doit céder la place, je n'invite pas du tout les évêques, les prêtres ou les fidèles à venir à notre école, à nous, aux fondations, ou à se rallier à telle ou telle école de pensée, de théologiens, de pastorale particulière, mais directement, et je dis bien directement, à l'école même du Seigneur. C'est lui qui va reprendre en main son Église et c'est lui qui est prêt à patiemment nous indiquer à chacun, en cours privé, mais tous ensemble en ce même temps de notre histoire, ce qu'on ne fait pas bien et devrait faire beaucoup mieux et ce qu'on devrait cesser de faire en Église. Bref, ce qui manque à son Église ou ce qui nous manque à nous en Église. C'est donc cet appel à recourir au bureau chef du Seigneur qui me donne tant d'audace, tant de liberté, tant de persévérance à proclamer et à réclamer cela à temps et à contre-temps. Mes amis, ce n'est pas mon dada, ma ou mes patentes que j'essaie de vendre. Ce ne sont pas mes ou nos idées que je défends. Ce ne sont pas nos méthodes, nos structures ou nos priorités qui sont mises de l'avant. Et soyez rassurés, nous ne sommes pas rémunérés à la commission. Non, c'est toujours la même chose. À savoir qu'il est grand temps de reconnaître enfin, une fois pour toutes, que c'est son Église, avec un grand S. Je bâtirai mon Église, a dit le Seigneur, et que lui la connaît, cette Église, et sait mieux que nous comment la renouveler et la maintenir en forme. Passer du style 1 actuel au style nouveau 2 va exiger, en plus de la conversion personnelle, indispensable, surtout si on veut faire vite et bien, une certaine désintoxication, entre guillemets, des toxines de notre style actuel. Et un accompagnement fraternel et communautaire qui éclaire et rassure par des gens qui parlent du style nouveau en connaissance de cause et avec autorité. Et cette école de pastorat ne devra donc pas programmer des exposés de nouvelles connaissances théologiques, psychologiques, sociologiques ou historiques, ni l'apprentissage de nouvelles méthodes techniques ou tactiques, mais devra être véritablement une expérience école, un bain tourbillon de vie spirituelle, où les quatre éléments essentiels dont on a parlé, qui manquent selon l'avis même du Seigneur à notre style actuel, et par voie de conséquence, ne lui permet pas de produire en Église d'aujourd'hui du fruit aux quatre valeurs, c'est-à-dire du fruit savoureux, abondant, qui demeure et se reproduit. L'important pour chacun de nous, évêque, prêtre, animateur de pastoral, dirigeant de mouvement, c'est, ne l'oublions jamais, notre mise en place face au Seigneur. Je dis souvent que la meilleure façon de ne pas se prendre pour un autre, c'est de laisser l'autre avec un grand A nous prendre. Cette mise en place face au Seigneur est plus importante, mes amis, que notre mise en place par rapport à l'évêque, à nos confrères, nos consœurs, aux fidèles ou au monde. En effet, si je me suis bien situé, mis en bonne place dans ma relation continue avec le Seigneur, eh bien, le reste. Même mal foutu au point de départ, finira par rentrer dans l'ordre grâce à lui. C'est tout ça, et beaucoup plus encore, que ce que j'appelle une pastorale du pastorat ou une école de pastorat devrait nous rappeler à cette heure-ci de notre Église. Sinon, mes chers amis, et je vais lancer ici, échapper ici, une mini-grenade pour le moins, le peuple de Dieu nous prendra, chers évêques, chers prêtres, bergers et bergères, et ce n'est pas moi qui invente l'expression, pour des attardés spirituels. Dans un des grands classiques du XXe siècle sur la vie spirituelle, le père Garrigou Lagrange, dominicain, à la fin du premier tome de son ouvrage intitulé « Les trois âges de la vie intérieure », consacre une bonne douzaine de pages aux âmes spirituellement attardées. Je vous confesse qu'en relisant ces pages, on retrouverait aisément malheureusement, le profil spirituel de bien de nos pasteurs et pasteures d'aujourd'hui. Troisième force positive. La troisième grande force qui ne demande qu'à éclater en Église communauté, si seulement on peut cesser de la freiner ou de lui bloquer la route, c'est la recherche d'une plus grande intimité avec le Seigneur Jésus, dont sont animés de plus en plus d'hommes et de femmes en Église, et tout particulièrement leur désir de le fréquenter et de l'adorer au Saint-Sacrement. C'est d'ailleurs un des quatre éléments essentiels du nouveau style qui s'en vient en Église. Qu'on se le dise et redise, c'est en effet en s'approchant de plus en plus de lui, particulièrement au Saint-Sacrement, qu'on apprendra en Église comment s'approcher de mieux en mieux de nos frères et du monde. Non seulement sans s'y enliser et se démunir souvent spirituellement soi-même, mais en apportant à nos frères la vraie lumière qui éclaire, les vraies forces qui soutiennent et les vraies solutions. Alors que lorsqu'on s'approche de nos frères en s'éloignant du Seigneur, consciemment ou inconsciemment, même avec les plus édifiants prétextes, comme « ça presse, il y a des démunis, l'Église doit être présente, etc., etc. », moins on est réellement près d'eux, du moins de façon significative et rentable. C'est en effet auprès de lui, Jésus au Saint-Sacrement, qu'on apprend à faire une meilleure lecture du monde et de ses besoins, et à prendre un meilleur engagement dans le service pastoral, quand lui est vraiment à bord et dans le coup. Ça suppose une grande option, et la voici. Que les lieux de recueillement et de prière se multiplient, et que les églises et les chapelles reste ouverte, qu'on revive et ravive partout, avec une foi et une ferveur renouvelées, le culte à la présence réelle, la célébration eucharistique prolongée et l'adoration du Saint-Sacrement. Fermement convaincu que c'est d'abord et surtout là, dans le silence actif auprès de lui, que l'individu comme le groupe trouve et trouvera sa voix V-O-I-E et la voix V-O-I-X du Seigneur qui peu à peu nous transfigure. N'attendons pas qu'en certains lieux de notre Église, tout comme Marie-Madeleine, on entende répéter « On a enlevé le Seigneur mon maître et je ne sais pas où on l'a mis. » Comme il sera cruel pour un pasteur de s'entendre interpeller, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le reprendre. » Concernant l'ouverture des églises, voici quelques suggestions pratiques. Que ceux et celles qui ont la clé commencent par y aller, et qu'une fois en adoration, qu'ils y amènent ou convoquent les autres par procuration et invisiblement. Ensuite, qu'ils agrandissent le cercle et procèdent par invitation en prêtant ou donnant soit la clé, ou en pensant à une serrure codée comme dans les entreprises pour permettre l'entrée dans des locaux spéciaux réservée à certaines personnes. Enfin, qu'on ouvre église, l'église ou les églises à heure fixe à tous, assurée de la présence d'adorateurs. Je prophétise qu'ensuite, lorsqu'un bon courant d'air adorateur commencera à s'amplifier à partir du tabernacle et du cœur, sortant à pleine porte, les indésirables seront tenus en respect dans la majorité des cas. C'est simple tout ça. Il ne faut pas 36 diplômes pour comprendre. Il faut du bon sens et surtout beaucoup d'humilité. Car c'est comme ça partout ailleurs. Les officiers dans l'armée apprennent par une mise à part à être et à demeurer en étroite liaison avec l'état-major. Dans les grandes entreprises, les personnes cadres, les cadres supérieurs, cherchent à établir une intimité avec le bureau-chef de l'entreprise. Une intimité qui s'établit avec le sommet. Or, dans l'Église, à tous les niveaux, nous ne sommes que des succursales, des postes de relais, paroisses, évêchés, maison-mère ou maison-père ou maison-frère. Lui et lui seulement est le bureau-chef. Et si tous, de bas en haut et de haut en bas, on allait tous chercher nos directives en ce haut lieu, il y aurait beaucoup moins de déraillements, de collisions, de faux aiguillages. Chacun resterait en voie, VOIE et VOIX, serait sur les bons rails, pourrait aller à la vitesse de son choix, à lui, le Seigneur, à fond de train, en TGV s'il le faut. Et l'Église cesserait alors d'être stationnaire, à coup de peur, d'études, de recherches, d'indécisions, et elle redeviendrait missionnaire, et donc remplie de foi, d'espérance, enivrée d'amour. Et alors le « suis-moi » de Jésus aurait à nouveau tout son écho. Je trouve qu'on se dandine en Église. Et pour prendre une expression populaire de chez nous, c'est pas disable. On se dandine dans nos études, tantôt sur une idée, tantôt sur une autre. On se dandine dans nos actions, tantôt on tente ceci, tantôt on tente cela. On se dandine dans nos déclarations et prises de position, tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite, un pas et trois quarts en avant et trois quarts plus un pas en arrière. Jean-Paul II ne se dandine pas. Il va de l'avant, il va courageusement, il avance et fait avancer. Comme il nous faudrait en Église beaucoup plus de chefs de sa trempe. Certains vont me dire en m'entendant, eh bien on en a. Puis-je leur demander au nom de Dieu et de notre peuple qui a faim et soif, arrangez-vous donc pour qu'on les repère, ces gens-là, qu'ils sortent courageusement du rang pour qu'on les identifie. Ce qui me frappe, vous savez, depuis 12 ans en particulier, depuis ce que j'ai appelé mon virage en U spirituel et l'option œuvre du Seigneur, c'est que la question sur le danger d'illusion possible dans une trop grande vie de prière vient immanquablement de ceux et celles qui n'ont pas expérimenté une telle vie de prière, du moins de façon intense et continue, ou n'en ont pas eu, ou n'en ont pas pris le temps de bien faire. je n'ai jamais entendu encore quelqu'un qui mène une vie de prière, d'écoute du Seigneur, d'adoration quotidienne, formuler cette crainte. Au contraire, tous admettent sans aucune exception que c'est par cette nouvelle vie où ils s'accordent un bon temps de prière par jour qu'ils ont découvert le vide de leur vie antérieure et les illusions nombreuses qu'elle entretenait. Les gens qui, dans la vie de prière, succombent aux illusions, et il y en a, n'y restent pas longtemps. Ils trouvent ça trop difficile et vite inutile. Parfois, au tout début, certains s'y réfugient, par évasion. D'accord. Mais chose certaine, on y demeure, on y prend goût, on en voit les bienfaits que par affection. Selon Cristallin le Taquin, si on s'accordait moins d'adulation mutuelle et plus d'adoration perpétuelle, l'Église s'en porterait mieux. Trop souvent, au lieu de vraiment contempler le Seigneur à l'œuvre et de le regarder aller, on a tendance à se regarder aller et à contempler nos œuvres. Quatrième force positive. Une autre grande force qui surgit en Église, enfin, c'est le renouveau communautaire chrétien. Lui aussi est un des quatre éléments essentiels dont nous avons parlé dans ce style nouveau qui s'impose, tel que demandé par le Seigneur en vue de relancer son Église. Et comme j'ai déjà de très nombreuses cassettes sur le sujet, vous pouvez voir la liste, et déjà une brochure sur ce qui s'appelle les petites communautés d'espérance et de paix appelées CEP, je ne développerai pas longuement ce qu'est ce communautaire. Mais disons qu'en Église, les fidèles, les pasteurs, les bergers et bergères doivent retrouver au plus tôt le sens, le vécu, le goût et les bienfaits du vrai de vrai communautaire chrétien. Mais faisons bien attention. Vous le savez comme moi, le thème des petites communautés, ou celui du communautaire, est devenu bien à la mode en Église, tout particulièrement depuis quelques années. Les intentions sont bonnes et les élans sont appréciables. Ceci dit, je ne peux m'empêcher de déplorer que dans la très grande majorité des cas, on est en train de refiler au peuple de Dieu, sans peut-être même s'en rendre compte, du vieux stock, du déjà démodé, quelque peu délavé même, et souvent absolument privé du meilleur de sa sève véritablement chrétienne. Les païens, dirait le Seigneur, n'en font-ils pas autant? On sait que certains diocèses même s'y sont engagés, les uns sous le slogan « Pour une Église fraternelle et communautaire », d'autres sous le nom de « Renouveau », d'autres sous d'autres formulations et types de communautés. Je le dis très respectueusement, mais très franchement, c'est vraiment regrettable qu'en ces années-ci, on ne se soit pas donné la peine d'aller résolument à la fine pointe du renouveau en ce domaine communautaire. On voit bien, à la réflexion sur les textes cité à la base de toutes ces initiatives, que leurs rédacteurs sont encore loin d'avoir vraiment découvert, expérimenté, savouré par eux-mêmes ce vrai de vrai communautaire chrétien, dont le feu fait rage de plus en plus un peu partout dans le monde, et dans lequel une multitude de laïcs, de prêtres et de religieux et de religieuses sont déjà engagés avec enthousiasme et bienfaits spirituels hors de l'ordinaire. Ceci dit, je me dois d'en convenir, ce qui se tente présentement, même à rabais, est encore mieux que rien, et sûrement plus qu'avant, c'est sûr. On pourra en tirer des bénéfices certains, mais ici encore, il ne faut pas une boule de cristal ou un charisme de prophétique pour imaginer que dans 3 ou 4 ans, on se demandera où sont les vrais fruits spirituels aux 4 valeurs dans les âmes, fruits savoureux, sanctifiants, en abondance, qui demeurent et se multiplient. Et on constatera à nouveau que tous ces grands efforts déployés généreusement, à grands frais, n'ont été couronnés en définitive que par de modestes résultats. Ce qui est bien typique du style d'Église qui prévaut présentement. Mes amis, il nous faut, et c'est déjà en marche de bas en haut, une Église éminemment communautaire. Aussi longtemps que nous, prêtres et évêques, nous ne serons pas devenus vraiment communautaires de ce vrai de vrai communautaire chrétien, donc prêts à partager aller-retour, désireux non seulement de donner aux autres, mais tout autant de recevoir d'eux, prêts à goûter et à vivre vraiment les exigences et les bienfaits d'une égalité réelle entre nous, il continuera à y avoir en Église de l'autoritarisme et du cléricalisme. Dans le monde, on le sait, c'est la relation dominant-dominée qui prime un peu partout. En politique, dans le monde des affaires, dans la vie économique et sociale, dans bien des milieux de vie conjugale ou familiale. On domine ou on est dominé. On est écrasé ou on écrase. On triomphe ou on perd. Chacun, chacune s'évertue à avoir le plus de victoires et le moins de défaites possibles. En Église, sans trop le vouloir, on a malheureusement importé ce type de relation entre nous, dominant et dominé. Or, c'est tout le contraire du communautaire et de l'égalité fondamentale qui doit exister entre les enfants de Dieu et les baptisés. On nous le rappelle d'ailleurs dans le Code de droit canonique, au canon 208, où il est dit, et je cite, « Entre tous les fidèles, et on inclut par fidèles absolument tout le monde, les évêques, les prêtres, les laïcs et les religieux, entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe, quant à la dignité et à l'activité, une véritable égalité. » En vertu de laquelle tous coopèrent à l'édification du corps du Christ selon la condition et la fonction propre de chacun. Et, encore une fois, les fidèles du Christ, ça comprend tout le monde en Église, évêques, prêtres, laïcs et religieux. Nous sommes donc fondamentalement égaux. Il n'y a pas de dominant ni de dominé. Le vrai de vrai communautaire chrétien a pour but précisément de rompre cette fausse relation dominant et dominé. Et situe donc l'autorité et son exercice en plein cœur de la communauté ecclésiale, où, dans le partage, aller et retour, les responsables ouvrent et battent la marche sans que personne ne se sente dominé ou écrasé. N'ayons pas peur. Le vrai de vrai communautaire chrétien ne conduit et ne conduira ni à l'anarchie, ni à une démocratie populaire où les chefs n'ont plus rien à dire ou à faire. Au contraire, le vrai de vrai communautaire augmente de beaucoup le sens et la portée de l'autorité, car alors elle est beaucoup plus éclairée, confirmée, discernée, appuyée au fur et à mesure. J'admets que cela est plus exigeant pour les chefs en fonction, car ils ne peuvent plus, dans un régime vraiment communautaire, s'isoler et faire à leur simple guise. Ils doivent être transparents et savoir partager aller-retour. Mais, ce faisant, nos chefs font de plus en plus autorité par eux-mêmes, en plus d'être en autorité par fonction. Frères, sœurs, on ne peut plus se contenter de donner aux autres de montrer le chemin. Il faut être soi-même en route et accepter que d'autres nous l'indiquent de temps à autre, eux aussi. Alors j'insiste en terminant, il ne faut pas craindre que cela risque de déhiérarchiser l'Église. Au contraire. D'ailleurs, le mot « hiérarchie » a une origine liturgique et est formé à partir du grec hieros, qui veut dire sacré, et archia, qui veut dire commandement. Et primitivement, ça a été appliqué à l'ordre et à la subordination des différents cœurs des anges, puis aux divers degrés de l'ordre ecclésiastique. Et ce n'est que plus tard que le mot « hiérarchie » a désigné une organisation sociale, une supériorité des uns sur les autres, et a entraîné son lot de difficultés dans les communications et les échanges d'idées entre les individus de rangs différents. Alors que dans le vrai partage spirituel communautaire, où l'on découvre ensemble de plus en plus notre véritable fraternité dans sa grande paternité divine. Nous sommes tous promus et hiérarchisés dans une même famille. Et normalement, chacun acquiert un plus grand respect des autres, une meilleure compréhension et appréciation des diversités respectives et, en fin de compte, un plus grand désir de s'aimer, de s'entraider, de se compléter, de se pardonner. Les hiérarchies humaines ne sont pas éclipsées, elles sont au contraire beaucoup mieux situées et appréciées. Parlons maintenant d'une cinquième force positive en Église. C'est la renaissance et la relance du prophétisme spirituel en Église. les signes précurseurs sont de plus en plus nombreux et prometteurs. Nous connaissons tous ces deux textes célèbres de saint Paul aux Éphésiens, quand il dit à la communauté nouvelle d'Éphèse, « La construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et les prophètes, et pour pierre d'angle, le Christ Jésus lui-même. » Et les notes au bas de la page de l'édition de la Bible de Jérusalem comme de celle de Tob spécifient qu'il ne s'agit pas des prophètes de l'Ancien Testament, mais des prophètes du Nouveau Testament, après Jésus. Et le même saint Paul dit, c'est lui qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs. Et j'y reviendrai dans des enseignements spécifiquement sur le prophétisme. Ce mot-là est disparu, prophète et prophétisme, comme par enchantement. On retrouve dans le droit canonique des articles et des articles sur les successeurs des apôtres, les successeurs évangélistes, pasteurs, docteurs. Mais pas un mot sur les prophètes et le prophétisme en Église. Le Seigneur, rappelons-le, est toujours actuel dans son Église. Et il ne veut pas la laisser s'endormir, cogner des clous, s'engourdir ou s'engloutir, perdre sa force ou son dynamisme. Et c'est pour cela que le grand prophète qu'est Jésus-Christ recourt à des hommes et à des femmes prophètes pour secouer à sa façon l'Église qui risque de s'ankyloser et qui devient parfois somnambule. Saint Paul nous le précise, les prophètes ont trois missions complémentaires. Celui qui prophétise, dit-il, parle aux hommes. Il édifie, il exhorte, il encourage. C'est-à-dire, il édifie en actualisant la parole de Jésus, diffusée par les apôtres, et en l'appliquant aux circonstances présentes. Il l'exhorte, un peu comme le sont ses interpellations fraternelles, exhortations prophétiques concernant le comportement et la vie concrète de chacun et de tous en Église. Finalement, il encourage et console. C'est à lui qu'il est demandé d'ouvrir l'avenir à l'espérance, de donner des messages de vie pour l'avenir. Le vrai prophète spirituel, et je dis spirituel à dessein, parce que dans notre monde actuel, on parle de prophètes naturels, humains, qui, à la lumière de leur génie, de leur talent, de leur culture, font toutes sortes de plans admirables pour l'Église, et c'est appréciable. Mais le vrai prophète spirituel, celui que le Seigneur vient chercher, inspirer et mandater, c'est d'abord un interpellé, avant d'être un interpellateur. Il doit se laisser lui-même déranger, désinstaller, avant de commencer par ses interpellations à déranger ou à vouloir désinstaller les autres. Le prophétisme spirituel, l'authentique qui vient de l'Esprit du Seigneur, consiste à dire ou à redire à ses frères et sœurs en Église exactement, c'est-à-dire sans rien ajouter ni rien retrancher, ce qu'en son âme et conscience devant Dieu, car chaque prophète a à lui en rendre compte, après avoir bien prié, discerné, et j'ajoute, jeûné, et pris le temps de longuement méditer, de dire et redire la ou les pensées qui répondent aux deux conditions suivantes. La première, être sûr que ces pensées sont vraiment inspirées de l'Esprit du Seigneur et ne sont pas le seul fruit de notre génie personnel, de notre expérience, de nos connaissances, de lectures, de propos entendus, d'intuitions humaines naturelles, mais au contraire, dont on se sent et on est bien sûr qu'elles viennent bel et bien de lui. Deuxième condition, être bien sûr que le Seigneur désire vraiment qu'elle soit bel et bien communiquée à telle ou telle personne, individu ou groupe, privément ou publiquement, oralement ou par écrit, à tel moment plutôt qu'à tel autre. Car beaucoup d'inspirations du Seigneur ne sont pas pour communication immédiate. Parfois, elles doivent être conservées dans notre cœur pendant des années et parfois même pour toujours. Le prophétisme, mes amis, est à l'Église ce que l'oxygénation est à l'air ambiant que respirent nos poumons. Sans oxygénation suffisante, donc sans un constant renouvellement, l'air devient peu à peu vicié, lourd, étouffant. En Église, il faut continuellement également une entrée d'air nouveau, de fraîcheur spirituelle, qui vient non pas de notre génie humain seulement, mais de la vie divine elle-même. Le prophétisme a entre autres effets et bienfaits de purifier l'air, de le renouveler, de l'enrichir de cet air dans lequel évolue l'Église. Quand l'air ambiant spirituel en Église n'est plus aussi sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T, quand il devient rare ou étouffant, comme c'est de plus en plus le cas dans bien des milieux, chez nous comme ailleurs, les vocations par exemple, à la vie religieuse, à la vie sacerdotale, à la vie engagée ou consacrée, ont alors grand peine à s'exprimer et à s'épanouir. Si on acceptait à nouveau en Église comme de droit et de nécessité à part entière le ministère des prophètes avec leurs caractéristiques bien particulières, on retrouverait assez vite le moyen de beaucoup mieux ajuster le couple, institutions et communautés en Église, qui sont tous deux indispensables l'un à l'autre et éminemment complémentaires. Ainsi, l'Église serait, comme il se doit, institutionnalisé, mais le serait avec souplesse et adaptation continue sous le souffle climatisant du prophétisme.